dalej.
Ona prima en rouge.
Après ces opus, Vigneronne manifeste pour un vin inclusif qui était un petit carton de librairie, jamais en carafe, les perles d'une caviste. Sandrine Guivart, avec nous ce matin, nous revient avec ce sixième ouvrage, Cher Pinard, un goût de révolution dans nos canons. Aucune allusion au titre du roman de Virginie Despentes ?
Mais carrément si.
Ah, coquine va. Qui s'appelait Cher Connard, on
Cher
le rappelle.
Cher Connard, évidemment.
Alors cet ouvrage, pour nous parler d'une révolution, hein, le mot n'est pas galvaudé, ça bouge beaucoup sur la planète vin, ça bouge au niveau du goût, ça bouge au niveau de la dégustation, ça bouge au niveau des technologies. Il paraît que l'IA désormais est capable de dégustation, donc tout ça nous interpelle et on va essayer de comprendre tout ça. Mais avant, Sandrine Guivart, parlons de la Belgique et de la consommation du vin. On est à 26 litres de vin par habitant, par an, 400 millions de bouteilles.
Oui.
On boit beaucoup de Belges, moins de Belges ?
Alors, on boirait plus de Belges si on avait plus de production. La Belgique est un paradoxe. On est un pays qui est traditionnellement très amateur de vin, donc on boit énormément de vin, bien que ça tende à diminuer. On peut un petit peu pondérer les chiffres de consommation. Par contre, on est un nouveau pays producteur de vin. Ça fait 10 ou 15 ans à peu près que le vignoble se professionnalise et qu'on a de plus en plus de vin. Malgré tout, ce qu'on produit en Belgique, c'est 1% de ce que le Belge boit.
Ah oui.
Donc on est loin d'avoir...
Et on en exporte un petit peu en plus.
On en exporte un petit peu, après très peu, parce qu'on est très, très locavore avec ce qu'on peut consommer ici en Belgique.
Alors, on va parler de cet ouvrage, Cher Pinard, un goût de révolution dans nos canons. J'ai appris beaucoup de choses. Et je pensais très modestement à peu près tout connaître, Carlo, comme vous d'ailleurs. On a appris beaucoup de choses.
Moi, je ne prétends rien, ne demandez pas dans vos délires.
Vous y parlez d'abord un gros chapitre dédié au goût. Le goût du vin, la perception que nous en avons selon que l'on soit spécialiste, néophyte ou juste simple consommateur. Vous l'expliquez, le goût. C'est une matière plastique, c'est une construction, il n'est pas inné, il se construit, il dépend de plein de choses, de la culture, de l'éducation, de qui nous l'apprend, de la société, de la politique même. Racontez-moi parce que ça me passionne cette histoire.
C'est un sujet que je trouve fascinant justement pour ça, parce que le goût, évidemment, on a tous en tête que le goût c'est physiologique. Peu ou prou le même nombre de papilles, on a peu ou prou la même manière de fonctionner au niveau du cerveau. Par contre, on peut influencer le goût. Alors, si on parle du social, par exemple, on peut reprendre l'exemple d'une étude qui a été faite, d'un test qui a été fait sur des petits garçons et des petites filles, où on faisait goûter des yaourts salés, très salés, à des petits garçons et des petites filles. Et les petits garçons manifestaient un dégoût intense, poussaient des cris, faisaient des grimaces, etc. Petites filles, à contrario, elles avaient tendance à enjoliver les choses, à essayer de trouver des formules polies pour dire que ça ne leur plaisait pas. Donc là, on est typiquement dans ce qu'est la construction sociale et genrée du goût, c'est-à-dire que les filles sont habituées à donner des valeurs positives au goût, même si ça leur déplaît, tandis que les garçons n'ont pas de problème.
Mais au-delà de ça, souvenez-vous, Carlon, on avait reçu il y a quelques mois de cela l'autrice Lorraine Malka pour son formidable livre Mangeuse. Elle nous expliquait que, de manière totalement inconsciente, les parents auraient plus tendance à donner des choses sucrées aux petites filles, alors que pour le petit garçon, on va lui faire
des protéines,
des petites choses un peu plus salées, un peu piquantes. Donc déjà là, ça se joue, cette histoire de
goût. Là, ça se joue, aussi au niveau culturel.
Oui, par exemple.
On va prendre un exemple. Tout le monde connaît ça en Belgique, la pêche au thon. J'adore parler de la pêche au thon parce qu'elle permet d'expliquer extrêmement, énormément de choses. La pêche au thon, ici en Belgique, tout le monde en a mangé, tout le monde aime ça. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est très familier. On fait beaucoup de mélanges sucrés-salés dans la cuisine belge, énormément. Les carbonades, les boulets, on a gardé ça. Ou à contrario, si vous parlez en France de pêche au thon, d'abord, ils vont tous vous mépriser, ils vont croire que vous vous moquez d'eux. Il n'y a pas besoin de la pêche au thon pour se moquer des Français. Mais ensuite, ils vont vraiment avoir un rejet massif de la pêche au thon. Pourquoi ? Parce que jusqu'au XVIIe, la cuisine sucrée-salée en France est très populaire grâce à l'influence italienne. Et au XVIIe, on codifie le goût. Et on décide que le sucre, c'est les desserts et que le salé, c'est les entrées et les plats.
C'est ça.
Donc, culturellement, les Français et les Françaises sont imprégnés du fait que
Le on sucre, ne mélange pas.
Ça n'a rien à voir avec les entrées.
Une vraie construction.
Ça, c'est, c'est la culture.
Mais c'est le cas aussi quand on voit, par exemple, les habitudes ou les dégoûts ou les appétences selon l'endroit où on se trouve dans le monde. Je pense à la Chine, vous parlez d'un concept qui n'a pas d'équivalent d'ailleurs en français pour décrire un goût légèrement métallique. Je n'ai certainement pas la prononciation adéquate, mais c'est Xing.
C'est ça.
Ça, pour nous, ça ne veut rien dire.
Non, c'est très compliqué. Après, ça existe très probablement dans notre cuisine. On ne l'a juste pas encore verbalisé. C'est un peu comme l'umami. Oui. L'umami, c'est le Japon qui a le premier modélisé en fait, le terme umami. Il lui a donné une définition et puis ensuite a développé le glutamate, qui est un additif alimentaire. Par contre, l'umami, c'est vraiment une saveur qu'on connaît au Japon depuis 1900 et qu'ici, en France, Belgique, Europe, c'est dans les années 80.
C'est ça.
Ça fait 40 ans qu'on le connaît, mais personne n'est encore capable de le définir ici. On est encore très hermétique à l'umami.
Donc le goût, il n'est pas inné, il s'apprend. Non. Il peut se désapprendre aussi, d'ailleurs.
Oui.
Et c'est particulièrement vrai quand on voit aujourd'hui l'émergence des nouveaux chocolats dont on parlait il y a quelques jours, Carlo. Quand on parle à ces experts, leur grille gustative n'est pas du tout celle d'un consommateur lambda qui va être habitué, par exemple, à des tablettes très sucrées. Donc ça conditionne aussi
la répétition de l'expérience.
Et la répétition de la dégustation, ça nous conditionne. Vous dites aussi, le goût est politique.
Ben oui, comme à peu près tout,
mais c'est à dire
dans la vie. Quand on parle de goût, on a souvent tendance à parler d'un bon goût par opposition à un mauvais goût. Dire ça, ça veut forcément placer un goût comme dominant et un goût comme dominé. Puisqu'il est mauvais, il n'est pas souhaitable, donc on n'a pas envie d'y référer. Comment est-ce que se construit le goût dans le vin et le bon goût dans le vin ? Il se construit essentiellement sur un référentiel européen, plutôt français, mais les autres pays européens aussi.
Quoi ? Donc vous voulez parler des classements, par exemple ?
Je parle, par exemple, des classements.
D'accord.
Je parle des hiérarchies, quelles qu'elles soient. Je parle de la façon dont on a construit les AOC, dont on a déterminé quel type de vigne était plus sujette à faire des vins qui ont un bon goût par rapport à d'autres qu'on a vraiment exclus. Donc tous ces mécanismes en fait et tous ces choix qu'on a posés, ça a construit un bon goût du vin qui est censément universel pour les Français, les Françaises ou les Européens, mais qui en réalité ne l'est pas du tout si on se place à l'échelle mondiale. C'est ça qui est un petit peu
Pour qu'on comprenne bien, je pense comprendre le propos, c'est que finalement, en créant par exemple les grands classements des grands crus du Bordelais, on a créé une certaine norme qui encadre un goût parfait et qui ont formaté le vin et donc notre goût. C'est un grand cru du Bordelais, donc in fine, c'est
donc
forcément
bon.
Et
non seulement il est bon, mais il a de la valeur.
Eh oui.
Alors, une valeur économique, et c'est là qu'on en vient en fait à la politique. Si un cru est meilleur qu'un autre au goût, s'il est plus cher qu'un autre, alors ça donne une position de pouvoir aux gens qui possèdent ces crus ou qui boivent ces crus.
C'est ça. Passionnant, absolument passionnant. Vous parlez du féminin et du masculin. Il n'y a pas de goût féminin ou masculin.
Non.
Il y a une construction de ce qu'on en a selon qu'on l'on soit femme ou homme. Allez, il y a une question qui nous est parvenue ce matin. J'ai failli la louper. Marcel qui nous demandait est-ce que. Alors, il donne son âge. Il a 81 ans. Il dit depuis quelques années. J'ai la sensation que mon goût change, que ma perception de la salinité d'un aliment change. Est-ce que c'est expliqué scientifiquement ou c'est vrai ou pas ?
Oui, alors il y a évidemment des tas de facteurs physiologiques qui peuvent influencer le goût. Ici, on a vécu le Covid, on a vu que certaines personnes avaient été très touchées au niveau du goût, de l'odorat, etc. Mais l'âge ou les variations hormonales peuvent aussi influencer le goût. L'âge aurait tendance, alors pas à effacer complètement les cellules du goût, mais à demander un seuil de perception plus haut pour percevoir les saveurs. Ça veut dire que quand vous êtes plus âgé, pour percevoir du sucre, il vous faut une plus grosse quantité de sucre ou une plus grosse quantité de sel. C'est aussi pour ça que souvent les personnes âgées disent que rien n'a de goût et tout leur paraît insipide. C'est parce qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus de sel et souvent les médecins disent non, pas de sel.
Ou qu'elles sont en EHPAD.
Ou qu'elles sont en EHPAD, vous voyez, qu'elles n'ont pas accès à de la bonne cuisine.
Oui.
Ça, c'est un autre problème.
Oui, c'est
alors, une grosse partie de cet ouvrage dédié aux critiques du vin, aux savants.
Oui.
Vous évoquez Robert Parker, évidemment, ce critique américain adulé ou absolument détesté, le sulfureux Robert Parker, dont l'ambition était, vous l'écrivez, de révéler les bons vins, les très bons vins, de balancer sur les mauvais. L'intention, a priori, était louable, mais assez élitiste et
c'est ça.
Finalement très scolaire. Et vous l'expliquez, aujourd'hui, on ne déguste plus comme avant. On n'a plus la même manière d'aborder un vin, de le décrire, de le classifier. Qu'est-ce qui a changé dans tout ça ?
Mais la multiplication des canaux de diffusion déjà, parce que avant on se fiait à la famille ou à des très proches ou éventuellement à un magazine spécialisé. Maintenant on a accès à des magazines spécialisés toujours, mais aussi des blogs, des réseaux sociaux qui permettent de parler du vin un petit peu différemment. Donc la multiplication des canaux fait que on a accès, heureusement. C'est un bien, je crois, à d'autres types et à d'autres formes de dégustation et à d'autres goûts, en fait. In fine, c'est ça.
Vous vous souvenez, il y a quelques années, Carlo, on avait reçu Michel Bétane, du grand guide, enfin grand, aussi critiqué d'ailleurs aujourd'hui, plus que jamais, Bétane et De Sauve. Ces vignerons... le goût, en tout cas, de Bétane et De Sauve, vous l'écrivez, était inscrit clairement dans une tradition de ces grands classements qui se conformaient finalement à la hiérarchie des AOC qui est existante au classement. Et vous le dites, aujourd'hui, il faut inventer une nouvelle forme de prescription. C'est un peu dépassé tout ça, c'est has-been dans le langage des jeunes.
Alors, je crois que de toute façon, si on veut respecter l'évolution du goût, il faut qu'on parle nécessairement du vin d'une façon autre. On ne peut plus se contenter juste d'être des prescripteurs, mais on doit ouvrir des portes.
Oui.
Notre rôle à nous, si nous sommes cavistes ou journalistes ou sommeliers, sommelières, on ne doit pas se contenter de dire c'est ça que vous devez boire parce que c'est le bon goût. On doit ouvrir un maximum la possibilité aux gens de goûter des choses en réalité.
Sandrine, est-ce que finalement le nouveau monde du vin, ce serait pas l'abandon de toutes les postures, c'est-à-dire les postures avec justement politiquement orientées en mode conservateur, on va les dire comme ça, et parfois certaines postures, on en a pas encore parlé, mais disons opposées des fameux chemins de traverse où on voit l'apparition de postures également, et postures qui d'ailleurs au-delà du monde du vin sont aussi très forts dans la gastronomie. Vous avez ceux qui disent que le monde est en train de s'écrouler parce qu'on a enlevé les nappes. Vous avez aussi ceux qui disent que le monde s'écroule parce qu'effectivement les vins sont troubles ou ce genre de choses. Mais les postures, le mode postural est aussi récupéré par ceux qui défendent les vins nature. Je vais vous donner un exemple et après j'arrête.
Rapidement, parce qu'elle est longue votre question.
Oui, elle est longue, mais on a le temps de parler aussi. Oui, hein. Oui. C'est pour ça qu'on en est sur la première. Et donc, non, qu'en pensez-vous ? Et donc, justement, vous m'avez interrompu du coup. Alors, je ne sais
plus. Postural, donc, les vins
nature, sur le postural. Moi, la semaine dernière, j'étais dans un restaurant sharing food que j'adore et le gars m'a dit « Oh non, là, j'ai vraiment une quille, elle est formidable, je te dis pas ce que c'est, parce que sinon tu vas être orienté, voilà. » Est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner les postures ?
Je crois que d'une façon ou d'une autre, de toute façon, quand on essaye d'appartenir à un groupe, alors que ce soit le groupe des conventionnels, ou le groupe des natures, ou le groupe des biodynes, ou le groupe des gens qui font du vin en slip, peu importe, le groupe, il y a évidemment une série de codes de vocabulaire, de phrases qui reviennent, et nécessairement, ça enferme un petit peu. Alors, c'est évident qu'on a besoin, pour se retrouver ensemble dans une communauté de goût ou politique, d'avoir à peu près les mêmes façons d'en parler. Mais ça peut, oui, si on n'y prend pas garde, si on ne reste pas un petit peu ouvert sur ce qui se passe à côté de sa bulle, ça peut être vraiment, pour le coup, très caricatural. Le monde du vin nature, pour le moment, est en train de se disputer très fort pour savoir si le vin nature, c'est des vins qui puent et qui sont daubés, ou si c'est des vins droits.
Tout dépend du savoir-faire du vigneron.
Alors, tout dépend, c'est même pas ça, mais tout dépend de comment on veut s'exprimer, parce que finalement, vin nature, ça recouvre tellement de réalités, tellement de goûts de vin, que c'est difficile de donner un seul adjectif pour définir tous les vins. Et c'est même un danger.
Mais ça met une pression assez forte pour les grands spécialistes, finalement ces prescripteurs dont on a tous souvent besoin en tant que consommateur, c'est soit même son chef de rayon dans un supermarché, soit d'aller chez le caviste, on a besoin d'un guide. Et vous parlez dans ce livre, Cher Pinard, un goût de révolution dans nos canons, de la dégustation géosensorielle. J'en avais jamais entendu parler. Ici, vous le dites, on ne cherche pas à distinguer ou à classer, mais à ressentir une vérité, celle du terroir. Explication, s'il vous plaît.
Alors, oui. D'abord, on va juste faire un point sur la dégustation, qui est la dégustation dominante à l'heure actuelle. Mmh. C'est la dégustation analytique ou sensorielle. Donc, cette dégustation-là, elle est vraiment basée sur la détection des arômes. Bon, on va dire, ce vin, il sent la fraise, il sent le bouillis, le pipi de chat, peu importe. Ouais. Et on va chercher une foultitude d'arômes comme ça. Le problème qu'on a avec ça, c'est que si moi je parle avec Carlo d'un vin et que je lui décris avec des arômes qu'on connaît tous les deux, on va s'entendre, il n'y a pas de problème. Par contre, si je décris un vin rosé, par exemple, et je prends le rosé parce que c'est un exemple vraiment très intéressant, à quelqu'un qui vit en Chine, que je lui donne, en traduisant en anglais, parce que je ne parle pas chinois, mais j'imagine qu'avec de l'anglais, ça passerait. Si je traduis la strawberry, donc la fraise en anglais...
Ça ne lui parle pas.
Ça ne lui parle pas. Il ne connaît pas.
Bien sûr.
Donc, il faut non seulement traduire, mais en plus adapter. Donc, trouver un fruit qui ressemblerait à de la fraise, mais qui serait une référence culturelle chinoise. Donc, c'est là que la dégustation sensorielle, elle est très compliquée, en tout cas si on ne retravaille pas le vocabulaire. Par contre, la dégustation géosensorielle, elle se base vraiment sur les sensations qu'on a du vin en bouche. Sur le toucher, donc le tactile, sur la sensation de longueur, sur la sensation d'attente. Est-ce que c'est doux, acide, amer? Donc c'est une dégustation qui est finalement un petit peu plus...
Émotionnelle, sensorielle.
Plus émotionnelle, parce qu'on se laisse plus porter.
Voilà, c'est le ressenti de la personne qui va avoir le vin en bouche.
On va se laisser plus porter par ses sensations et par ses émotions de une. Mmh. On va se laisser porter aussi par son sens du goût, mais gustatif, pas de perception des arômes, parce que la perception des arômes, elle dépend très fort de la culture et du social. Par contre, les sensations d'amertume, de sucre, d'acidité, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus universel. Même
et donc,
s'il y a des variations à l'intérieur des vins.
C'est là qu'intervient la notion de révolution dans la dégustation et dans l'art, dans la manière de parler du vin aux néophytes, c'est-à-dire ce que nous sommes tous a priori, c'est adapter le propos. On n'est plus dans ces optiques. C'était très intéressant, Nancy, vous parlez justement des manières de déguster. Il y avait la dégustation des médecins à l'époque, qui est passée aux mains des marchands avec un autre vocabulaire, évidemment. Il fallait vendre le produit. Il y a eu cette évolution avec l'arrivée de la gastronomie. Et donc là, ça va encore devoir évoluer. On ne va plus parler du vin et le décrire de la même manière. Et finalement, je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui, Carlo, où l'émotionnel prend de plus en plus d'importance, où le ressenti doit être primordial avant le détail ultra technique des tanins, des machins, des trucs et des tracts.
Mais justement, je pense que c'est la première fois qu'on parle de ça ici. C'est-à-dire que, je ne dis pas pour vous, Sandrine, mais prime dans cette histoire de dégustation géosensorielle, l'aspect vraiment, si je puis m'exprimer ainsi, de la bouche buccale. C'est-à-dire que c'est les sensations sur la langue, dans les joues, tout ce qu'on appelle la matière du vin.
Oui.
Et aussi, évidemment, ce que vous avez bien expliqué, à savoir les fameuses saveurs fondamentales. Mmh. Et c'est amusant parce que, finalement, le nez nous trompe souvent. Vous qui êtes caviste, j'imagine que ça vous est déjà arrivé de faire déguster un muscat sec.
Oui.
Des gens qui ne connaissent pas le muscat sec.
Et puis ils sont surpris parce qu'il n'y a pas de sucre en bouche.
Et ils disent, c'est un vin sucré. Et ils ont bien raison, parce que ça fait appel à un référentiel de vin sucré. Mais il faut le mettre en bouche pour le savoir ou pas.
C'est ça. Moi, je crois que la dégustation géosensorielle, elle est très utile quand on veut vraiment déterminer si un vin est bien fait, s'il a une certaine qualité, s'il est techniquement bien élaboré et s'il a quelque chose à dire. Après, la dégustation analytique, donc le fait de décrire, d'utiliser... du vocabulaire pour parler du vin, ça c'est complètement une dimension de plaisir, c'est une dimension hédoniste. On ne doit pas l'oublier parce que c'est tellement agréable de se plonger dans un verre de vin et puis de le sentir évoluer et puis de le laisser un peu sur le côté, d'y revenir, d'en discuter, de trouver tel ou tel arôme, telle ou telle senteur. Mais je pense qu'on ne peut pas se baser que là-dessus et que si on veut ouvrir... Alors moi j'ai deux axes dans tout ce que je fais dans mon travail, c'est la pédagogie et l'inclusivité. Donc la pédagogie, ça veut dire pas juste apprendre d'une façon magistrale aux gens, c'est leur apprendre à se débrouiller et à déguster par eux-mêmes, d'une part. Et l'inclusivité, c'est-à-dire, je veux pouvoir, moi, pouvoir discuter de vin avec n'importe qui, peu importe son expérience, peu importe sa culture, ou d'où il vient ou d'où elle vient. Ça, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça que ce livre, en fait, il est né. C'est de cette réflexion de comment on fait. Si on veut partager le vin de demain avec tout le monde, avec le plus de monde possible, comment est-ce qu'on invente cette nouvelle façon d'en parler, en fait, et de le partager ?
Alors parlons justement des vins de demain dont vous venez de faire mention, Sandrine Govard. Je rappelle que vous êtes l'autrice de cet ouvrage passionnant, Cher Pina, un goût de révolution dans nos canons. Vous le dites, la société évolue.
Oui.
L'histoire évolue, le goût change. Les maîtres mots aujourd'hui dans les vins qui fonctionnent bien auprès du public, c'est ce qu'on appelle la fraîcheur et la buvabilité, alors qu'on aurait aimé, il y a 20, 30, 40 ans, les vins très tanniques, les vins de mec, comme on les appelait à l'époque. Ça change déjà. Et donc, il va falloir que le marché évolue aussi en fonction de cela.
Oui, on voit bien d'une part que la consommation de vin, alors dans les pays qui sont traditionnellement des acteurs du vin, donc des gens qui boivent du vin régulièrement, la consommation, elle chute. On a de plus en plus de vins blancs et de vins rosés qui sont mis en avant dans la consommation.
Oui.
On consomme de moins en moins de vins bas de gamme et on a tendance à se tourner vers des produits plus bio, plus éthiques.
Oui.
Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le vin, il a quitté le repas, il a quitté la table. Les nouveaux consommateurs de vin, les nouvelles consommatrices ont tendance à boire du vin plutôt à l'apéro ou du vin de moment, et donc à boire et à préférer plutôt des vins plus light, plus légers en alcool. Mm-hmm. Et puis le vin n'est plus tout seul. Le vin n'est plus seul. Il y a une consommation de vin, alors plutôt nature, c'est sûr, mais aussi des bières craft, de plus en plus, des cidres,
oui, c'est
ça, pour leur côté léger, voilà, pour leur côté frais, facile à boire, et puis pas mal de produits sans alcool qui
oui,
commencent à être
sûr.
vraiment intéressants.
Mais vous faites mention dans cet ouvrage d'un mouvement Anything But Vinifera qui a été créé aux États-Unis et qui propose une lecture très différente et d'ailleurs assez étonnante de ce que pourraient être les vins de demain. On peut peut-être en dire un mot, parce que j'ai quand même l'impression que là, on tient un truc assez important, que ça ne va pas rester qu'un tout petit mouvement Made in America.
C'est quelque chose d'assez passionnant.
Mais c'est quoi, ça ?
Anything but vinifera, donc c'est rien sauf la vinifera, tout sauf la vinifera, je vais y arriver.
Donc tout sauf la vigne.
La vitis vinifera, c'est la vigne européenne classique. Ouais. On l'appelle vigne noble, d'ailleurs, ce qui n'est pas un terme complètement anodin, mais par rapport à d'autres types de vignes. Et donc ce mouvement qui est d'ailleurs porté plutôt par la communauté noire ou par les personnes racisées ou par les personnes cuir. C'est un mouvement qui tend à faire exister d'autres vins. Alors, des vins qui viennent de raisins autres que les viniféras, c'est une chose, mais aussi de production plus locale, comme par exemple les myrtilles dans le Maine, qui est vraiment, la myrtille, c'est vraiment quelque chose de très courant. C'est un peu comme si nous, on faisait du vin avec de la fraise de Wépion.
C'est ça.
Voilà. Et donc, on fait coexister alors des fruits et des raisins, ou des céréales et des raisins, et on produit ces boissons qui sont un peu, alors qui sont nouvelles dans notre esprit, parce qu'on n'a pas forcément l'idée que si on se replonge au paléolithique...
On fabriquait les vins de fruits,
les premiers vins, les premières boissons alcoolisées, c'était toujours des mélanges opportunistes entre fleurs, fruits, baies, tout ce qu'on ramassait.
Mais il existe
après que ça s'est divisé.
Il existe des expérimentations comme ça en Europe, en France.
Oui, il y en a pas mal.
Il y avait les vins de raisin, ils existent encore.
Les vins de raisin, oui, ils vinifiaient vraiment les vins. Je crois que ça existe toujours. Oui, ça a pris un virage où j'ai plus continué à suivre son actualité.
Mais on peut
réellement
peut-être s'informer, parce que c'est vrai qu'on en a souvent parlé, mais est-ce que ça existe
donc
encore?
Donc le vin de rhubarbe, etc. Il faut chaptaliser, ça manque de sucre.
Oui, c'est
mais
ça,
en
un
tous
peu
les
le
cas, c'est une des pistes dans
cette
révolution du vin dont on fait mention dans ce livre, c'est qu'on risque de passer sur un marché qui s'étoffe avec des vins de cerises, des mous, des fermentations de mous et de sureaux. Enfin,
ça fait partie aussi d'une certaine d'une certaine forme de raisonnement écologique.
Bien sûr.
Puisque la monoculture est une aberration. on peut le dire. Hein,
et c'est le cas pour la vigne souvent.
Et c'est le cas pour la vigne souvent. Par contre, les vignerons, les vigneronnes qui investissent dans, par exemple, un petit peu des fruitiers, un peu des céréales, et qui se permettent soit de produire à côté de leur vin des bières ou des produits de fruits, ou bien des co-fermentations, c'est aussi pour eux une manière d'abord d'avoir un vignoble beaucoup plus résilient et beaucoup plus écologique, qui va peut-être nécessiter moins de traitements, et ensuite d'avoir en permanence une production, même si les aléas climatiques font que la production de vin est parfois fort compliquée ces dernières années, là ça leur permet d'assurer, en diversifiant les sources et les produits, d'assurer une production tous les ans.
Et le titre de cet ouvrage prend tout son sens, effectivement, cette révolution du vin de demain, des 30 prochaines années, des 40, etc. Ça peut être ça aussi, des vignes diversifiées, des goûts différents aussi, qui suivent des tendances, avec une nouvelle génération aussi, qui est moins consommatrice de vin, on en parlait aussi il y a quelques semaines, mais qui est peut-être plus exigeante, plus en quête de cohérence par rapport à tous les enjeux environnementaux que l'on connaît, humains aussi.
Et de variété de goût.
Et la variété du goût, bien entendu. Alors, nous avons avec nous, et je ne sais pas s'il est déjà connecté, un vigneron cinéaste, Guillaume Baudin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on va parler de sulfite. Est-ce qu'on va parler de révolution ces prochaines années dans leurs usages? On en parle juste après cette petite pause pub, Guillaume. Restez avec nous.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits sur RTBF Ovio.